Copilot pour l'été.
Hey! Allô tout le monde, 15h55, bienvenue dans Copilote pour l'été, ici Michel Charrette.
Et Jessica Barker pour vous raccompagner à la maison jusqu'à 18h.
Ça va bien l'addiction, c'est parti, ouais, c'est correct. Bon, t'as-tu passé une belle fin de semaine, mon ami?
Oui, j'ai passé une belle fin de semaine.
T'es-tu perdu pour te rendre aller jeudi?
Non, parce que jeudi, quand on a terminé l'émission, j'étais bien stressée, je m'en allais directement à l'île d'Orléans, puis je me perds tout le temps à l'autre bord du pont, je sais pas pourquoi, je comprends pas les autoroutes puis les sorties.
GPS, ça existe pour ça, là.
Oui, mais même avec un GPS, en tout cas, tout ça pour dire que je me suis concentrée puis je me suis puis ça a bien été 3 heures de rouge à Saint-Jean, mon chalet que j'avais loué porte à porte.
Excellent.
J'ai quand même roulé, hein? Ça a quand même été efficace.
Ouais, super.
C'était une merveilleuse fin de semaine. Vous pourrez voir ça sur les réseaux sociaux de quelques UDA. Voilà. Une autre belle semaine qui commence. On va avoir pas mal de fun.
Oui, parce qu'on la passe avec qui? Avec mon meilleur ami, mesdames et messieurs, le thanatologue François Chénier.
Excellent.
Non, c'est pas un thanatologue, évidemment. C'est une joke, là. C'est mon ami acteur. Ça va, mon chum?
Ça va. Merci de m'accueillir.
Mais là, on n'avait pas le choix. T'étais le seul qui nous restait sur la liste.
Ça fait 3 fois que vous me changez de semaine. Hein? C'est facile.
Ouais. Guylaine Tremblay, tu n'as plus, toi, t'es un c'est moins.
C'est ça.
Michel, expliquez-nous votre lien. Vous vous êtes rencontrés où, quand? C'est quoi l'histoire?
Bien, évidemment, là,
votre
les gens nous associent beaucoup à Radio Enfer, c'est sûr. Mais on s'est connus un petit peu avant. Hein? On sortait dans les mêmes bars, on avait des amis en commun. Puis, ben, quand Radio Enfer a commencé, ben, écoute, ça a été instantané, en tout cas pour moi. Là, c'est pas pour lui, mais moi, ça a été un coup de foudre instantané, un coup de foudre au niveau de l'amitié, un coup de foudre au niveau de son talent, au niveau de son intelligence, au niveau de plein d'affaires. J'ai fait, ce gars-là, il était où dans ma vie avant?
Oh, c'est beau, ça!
Non, mais c'est vrai, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Écoute, on s'est jamais ostiné, on s'est jamais chicané. On s'entend sur les mêmes affaires. Puis, évidemment, sur certains aspects, on est diamétralement opposés.
Oui.
Moi, je suis le pitbull, je défonce les portes. François, il est là pour me
retenir. Agent modérateur.
Exactement, parce que, bon, c'est un bon gars. Puis moi, des fois, je ne suis pas toujours bon gars, mais lui, il est là pour me tempérer.
T'as-tu la même version que Michel, François? Parce que là, on a écouté la version de Michel, mais...
C'est-tu la version longue? Je peux te faire la version longue ou c'est la version courte?
On a toute la semaine. On va en apprendre plus au cours de la semaine. Mais oui, non, j'ai la même version, hein. Moi, comme Michel dit, moi, c'est pas que j'admirais l'intelligence de Michel, mais je me suis dit, quelqu'un qui reconnaît mon intelligence.
Ah,
là, j'ai fait, faut que je m'accroche à ce gars-là.
Chénier, il dit toujours, dans un duo, t'as toujours le gars qui a du talent, puis t'es un génie.
Alors, on sait c'est qui le génie?
Voilà, fait que c'est moi. Merci beaucoup.
C'est ça.
Bon, écoute, pour commencer cette semaine-là du bon pied, on a un beau message à te faire entendre, mon Frank.
Hey, salut Frank, c'est Catherine, ton amoureuse. Ben, je sais pas si tu te souviens de moi, là. Je t'envoie un petit message vocal pour te souhaiter bonne semaine à la radio avec tous tes amis, Michel, Jess. C'est vraiment le fun. J'espère que tu vas avoir du plaisir, que tu vas en profiter, puis que tu vas... Ben, que tu vas te rappeler que nous aussi, on a envie de te voir des fois, puis que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hein, on s'est pas vu du printemps, puis là, on se voit jamais le soir parce que tu joues au théâtre, puis là, ben, on se verra pas cette semaine parce que t'es à la radio. Oui, c'est le fun pour toi, hein? voilà. Fait qu'écoute, je te souhaite vraiment une belle semaine et je veux juste te rappeler que c'est l'anniversaire de ta fille au mois de septembre. Faut pas l'oublier. Puis que, ben, on a hâte de te revoir. Alors, à la prochaine.
Oh, que je l'aime, Catherine!
Bravo, Catou.
Oh,
c'est elle qui vient d'Europe avec la COVID. Elle veut pas me toucher.
Alors, pour ceux qui sont pas au courant, ta blonde, c'est la comédienne Catherine Lachance, celle qui jouait Judith dans Histoire de filles. Est-ce que vous êtes rencontrés sur un plateau tournage, vous deux?
On s'est rencontrés dans un party de première de théâtre.
OK.
Ouais. Moi, je jouais dans le show. Elle me regardait, puis
Capotait.
Hey, merci, ma belle Catou.
Ça fait combien de temps vous êtes ensemble?
29 ans.
29 ans?
Wow!
Mon Dieu, c'est
aucune incartade à part 2 fois. Oui, 29 ans.
À part une fois au chalet.
Voilà.
Écoute, il y a d'autres personnes qui te sont très chères, Frank, qui voulaient aussi te dire un petit mot. Écoute bien ça.
Oui. Allô, papa, c'est Antoine et Marie, tes chers enfants.
Salut, papa.
On voulait vraiment te dire bravo pour la job à la radio. On trouve ça vraiment hot. Malgré qu'on est quand même très, très anxieux pour toi parce qu'on sait que c'est pas facile, tu sais, des fois parler devant le public, tout ça.
Ouais, tu sais, détends-toi, dis-toi que t'es bon, donne-toi une petite tape dans le dos à toi-même, tu sais, t'es capable.
Ouais, t'as même le droit de, tu sais, prendre un grand verre d'eau, des grandes respirations, t'as le droit de faire ça, papa.
Puis si t'es pour shaker pendant, ben, essaye de pas le faire dans le micro parce que les gens vont entendre.
Ouais, puis écoute, à part de ça, on voulait te dire qu'on t'aimait, puis bonne chance.
Bonne chance.
Merci, hein? Les enfants.
Pas beau, ces enfants-là.
Comment ça que chez nous, sont caves, puis à radio, sont corrects? non, merci, les enfants, vous êtes fins.
Le niveau de sarcasme de tes enfants, je les aime d'amour.
Non, ils sont formidables.
Écoute,
ils t'étonnent
tellement, tu sais. Ouais. C'est comme, c'est merveilleux. Est-ce que c'est votre dynamique familiale, ça?
Sans arrêt.
Ah, oh, c'est tellement le fun.
Oh, non, c'est beau, beau, beau de voir ça, les quatre ensemble. Là, c'est vraiment trippant. Là. Frank! T'as déjà fait de la radio, évidemment, comme invité, c'est sûr. Mais comme co-animateur, c'est-tu ta première expérience comme ça ou t'en as fait ailleurs? En fait, je connais toutes les réponses. Je sais pas pourquoi je pose ces questions.
Parce qu'il y a des gens qui connaissent pas les réponses.
Non, c'est vrai.
J'avais fait le stage de radio à CISM. Ça, personne ne le sait.
Mais c'est
quand
bien
même...
que tu nous en parles.
Le stage de radio à CISM, peut-être tu as été accepté.
Non, je suis parti parce que, écoute, j'étais plus hâte que ça.
OK, bon,
mais,
c'est super.
Non, c'est pas. J'ai fait de radio en France.
Excellent.
Alors, nos sujets pour aujourd'hui. Bonjour, François.
Excuse-moi, c'est la fin des vacances de la construction puis le retour au travail. Pour plusieurs personnes aujourd'hui, ça fait qu'on va parler de la déprime post-vacances.
On va parler de ce qui s'est passé avec le défilé de la fierté de Montréal, la fierté à Montréal hier. Ça touche tout le monde partout au Québec, cette histoire-là.
Puis le défilé de la Coupe Stanley aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu.
Ouais.
Notre collaboratrice Vanessa Destiné va venir nous parler d'insécurité alimentaire, un mal invisible, surtout dans le contexte de l'été.
Et on aura un jeu un peu plus tard. J'ai hâte de voir si François est aussi compétitif que Michel. L'es-tu?
Non, François, il n'est pas compétitif.
Je pense pas que ce soit
François,
pas
François, tu pitches d'un coin et prends forme du coin.
Ouais.
Il est pas compétitif.
Je suis pas d'accord!
Mais je vais jouer un personnage. Là, je vais être agressif.
Parfait!
Oh, wow! Vous écoutez Copilote pour l'été avec Jessica Barker et Michel Charette.
Et notre invité de la semaine, François Chénier.
Comment tu l'as appelé?
François.
Ah, mon
François.
Dieu.
C'est plus le fun quand on dit comme ça.
Ah, okay.
Alors, vous avez écrit ensemble une pièce de théâtre qui s'appelle L'Institut. À l'Institut, qui est en ce moment jouée.
À Saint-Mathieu-de-Belleuil, au cœur des Hirondelles.
Il y a quelqu'un qui l'a vu, Stéphanie de Belleuil, a dit « J'ai vu la pièce, c'était superbe, on a passé un super temps, on a beaucoup ri. On est chanceux d'avoir vécu la panne électrique, un événement à soi. » Il y avait une panne ce week-end, c'est ça?
Oui, samedi pendant le show. Juste quand l'entraque est arrivée, il y a eu une panne d'électricité. Ça a duré une couple de minutes. Ben là, il y avait Jason McNally qui jouait de la musique, tout ça. Fait qu'il a fait son set un petit peu plus long. Le show est reparti peut-être 5-10 minutes plus tard. Mais écoute, la panne d'électricité est tombée au bon moment.
Faut
que ça tombe à l'entraque, ça parfait.
C'est
très, très chanceux. C'est un énorme succès, cet été.
Ça marche, c'est fou. Écoute, on a un casting de feu, on écrit ensemble. Tu sais, ça fait 4 pièces qu'on écrit ensemble, François et moi. Puis je pense, très honnêtement, très humblement, que c'est notre pièce la plus achevée, la mieux écrite.
Ben, c'est évidemment, la dernière.
Non, mais
pas la dernière pour la vie.
Avec
ça.
L'expérience qu'on a, puis tout ça aussi, là, ça fait que c'est super pour ça.
C'est les meilleurs commentaires qu'on a aussi.
Ouais.
C'est vraiment, on peut pas être plus heureux.
Non, exactement. Ça marche beaucoup mieux que Symphorien.
Go questionnaire!
Alors, François, à chaque début de semaine, on vous fait remplir un questionnaire, évidemment, à nos invités pour apprendre à mieux connaître.
Ouais.
Malgré que t'es mon meilleur ami dans la vie, j'en ai appris des bonnes, surtout, mon ami.
Dans ton questionnaire, François, on apprenait d'abord que l'événement historique québécois que tu aimerais connaître, c'est l'histoire du patriote Dr. Chénier.
Oui.
As-tu un lien de parenté avec ce patriote-là, avec des patriotes?
Oui, le patriote. Ben, c'est parce que le docteur Chénier est un des plus connus parce qu'il était de la bataille de Saint-Eustache. Il a été tué par les Anglais. Puis c'était comme un représentant des patriotes de l'époque, là. Mais j'en sais pas plus que ce que je vais vous dire vraiment. T'sais, fait que c'est... Mais oui, je sais que je suis un descendant assez direct. Là.
De lui, précisément?
Ben oui, mais...
La crise, tu sais, la crise d'octobre, la cellule Chénier, est-ce que ça a rapport avec lui aussi, c'était ça?
Ah oui, hein? Oui, ça a comme continué dans le temps.
Ben, c'est parce qu'il était très patriotique. Là, je ne suis pas sûr que le docteur Chénier serait d'accord avec les actions.
Absolument.
Oui,
tu as
raison.
Mais ceci dit, c'est parce qu'il était très, très. Ils ont pris le nom du docteur Chénier. Oui, la cellule Chénier, exactement.
Okay. Puis quand on te demande quel autre emploi tu aurais aimé faire, de tous les emplois du monde, toi, tu dis que tu aurais aimé ça être un éleveur de chèvres.
Ouais.
Je veux dire, qu'est-ce qui te ferait triper là-dedans si tu jouais avec des pies? C'est quoi?
Ben oui, c'est directement.
Je sais que tu as des.
Ben voyons!
Tu as des tocs un peu weird.
Ben oui, c'est sûr. Mais moi, c'est directement relié.
Non, mais on peut-tu avoir plus d'informations sur les chèvres, là? Sérieusement.
Non, mais c'est vraiment ça, c'est les pies. Non, Jess.
C'est vraiment?
Non, les chèvres, moi, je peux regarder des heures de vidéos de chèvres sur Facebook, sur YouTube, tout ça. Avez-vous déjà vu comment ça saute, une chèvre? Ça saute comme sur le site, ça me fait rire.
Ouais,
dès qu'il y a un trampoline.
Il y a une SQDC pas loin de chez vous, je pense. Hein?
Oui, ben pas, même si c'est loin, je vois pas.
Écoute, je te souhaite de réaliser ton rêve.
Ah oui, les chèvres.
Quand on te parle d'influence ou de mentor, tu nommes aucun éleveur de chèvres, mais tu nommes des comiques naturels comme Gilles Latulippe ou un certain Michel Charette, mais aussi des humoristes comme Seinfeld ou Don Rickles.
Ouais.
Est-ce que tu aurais aimé ça faire carrière comme stand-up, toi?
Oui, mais j'aurais pas été du genre des humoristes que je nomme.
Non, t'aurais offert autre chose.
Ce talent-là que j'ai, mais ben, tu sais, je parle de Don Rickles. Pour moi, Michel Charette, c'est notre Don Rickles québécois.
OK.
Puis Don Rickles était très ami avec un vieil artiste stand-up qui est Bob Newhart. Puis moi, j'ai l'impression que je suis Bob Newhart puis que Michel, c'est Don Rickles.
OK, c'est ouais, ça.
Ouais. C'est des références pour les vieux qui aiment les humoristes.
C'est ça, j'allais dire. Moi, je suis out de cette conversation, mais j'adore.
Non, mais tu verrais Don Rickles, tu dirais, ah, c'est
okay,
lui.
OK, c'est lui, ouais, de toute façon. Longtemps, il a été un maître de cérémonie pour des roasts aux États-Unis.
OK.
Ouais, grands présidents américains, Dean Martin, tout ça, c'est lui qui s'occupait de ça. Ça a été un grand.
Meilleur ami de Frank Sinatra aussi.
Exactement. Puis, c'est toute cette génération-là. Là.
Très actuelle.
Exactement. Ouais. Hey, ça, mon frère.
C'est ça, Jess.
Bravo, championne. Alors, ça, c'était très drôle. Quand on te parle de style vestimentaire préféré, tu réponds, les seuls beaux vêtements que j'ai, c'est Michel qui m'est acheté.
Ouais.
Tu mens.
Non.
Tu mens parce que depuis que j'ai perdu du poids puis tout en a pris, je te donne aussi tous mes anciens
vêtements. C'est ça, c'est ça, ouais.
C'est une vraie carte de mode.
Ben, c'est ça. T'es quand même le responsable.
Exactement, je sais bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise.
Quoi qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas, mais t'es pas mal en short t-shirt, puis moi, je me suis mis cute.
Ben oui!
Non, c'est vite dit, t'es pas mis cute, t'es habillé point.
OK, c'est vrai.
Bon, voilà, merci beaucoup. Alors, on a un texto ici de Danny qui dit « On a-tu droit à un Karl 4 Charest, s'il te plaît? Michel, Radio Enfer fait partie de ma jeunesse. Merci, les gars. Écoute, on peut pas vous dire quoi, mais il va y avoir quelque chose bientôt par rapport à Radio Enfer.
Oui,
mais on laisse ça planer dans l'air.
Puis il nous reste 8 shows.
Okay. Mais je sais de quoi tu parles. Tu parles du rap des aliments avec Chloé Deblois.
Oui.
Mais moi, je parle de d'autres choses. Par rapport aux 4 Charest, par rapport à Jean-Loup, par rapport à une coupe d'affaires. Alors, restez à l'affût, les gens. Quelque chose qui va vous péter dans la face à un moment donné que personne ne s'attend.
Vous écoutez Copilote pour l'été avec Michel Charette, Jessica Barker et François Chénier. François, on est justement en train de poser des questions, d'aller dans du croustillant.
Yes.
Non, mais pas nécessairement du croustillant, mais apprendre à plus te connaître. Mm-hmm. Alors là, ce qu'on te parle des fiertés dans ta vie, tu nous parles de l'allure de ta carrière. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière?
Ben, c'est parce que quand j'ai parlé de l'allure, tu sais, je peux pas dire je suis pas fier de ma carrière. C'est comme si, tu sais, je suis fier de mes enfants. Mais si je dis pas je suis fier de ma carrière, c'est comme si c'est tout un pan de ma vie qui a pas existé, tu sais.
Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il faut quand même des fois le nommer. On parle tout le temps de nos enfants. Je trouve ça cool que tu dises, hey, moi, je suis fier de ma carrière, tu sais.
Ben, je suis fier de l'allure. J'ajouterais l'allure de ma carrière parce que sinon, j'ai l'air d'un arriviste qui fait ça.
Mais
non, mais il y en a tellement.
Hey, peux-tu répondre à la question,
Zoé? C'est ça.
C'est quoi l'allure de ta carrière qui te rend fier?
Ma carrière, c'est pas une vedette, mais il est encore là.
Ah, c'est tellement la meilleure affaire.
Le train va loin, là. Ça a été toujours ça, Frank. Il a toujours été dans le paysage culturel, dans le paysage télévisuel. Puis comme il dit, tu sais, des fois, il y a eu des gros rôles, des fois, il y a eu des gros rôles, mais il est encore là.
Absolument.
Puis c'est comme un essentiel.
Absolument.
Tu comprends? Tu fais, hey, qui? Ah, Frank. Tu sais que la job va être faite, tu sais qu'il va être préparé, tu sais que ça va être bon, puis il fera pas chier personne sur un plateau. Fait que c'est comme un essentiel, tu comprends?
Est-ce que
tu
as encore des rêves de comédien à réaliser? Tu dis, ah, ça, c'est un rôle-là, je veux vivre ça, ou ça, cette affaire-là, ou tu sais, ou tu dis, hey, ben, Colin, j'en ai fait des affaires, c'est incroyable. Tu sais, que tu regardes plus en arrière, des fois?
Ben là, ça a l'air d'être un show de reconnaissance envers Michel Charette, mais moi, je voulais jouer du Tremblay, puis c'est grâce à Michel que je l'ai fait.
Ben non, mais c'est correct.
En plus, un super beau rôle, fait que oui, ça... mais non, tu sais, il y en a qui disaient, c'est quoi ton rêve de carrière, ton plan de carrière? J'ai jamais eu de plan, tu sais, même, j'ai été chanceux, moi, j'ai fait mon premier petit film à 13 ans, puis tout le monde était là, ah ouais, fais des démarches pour continuer. J'ai dit, non, ça va venir si ça vient, puis tout. J'ai pas, comme Michel dit, ce côté défonceur de porte, mais si l'opportunité est là, je mets le pied dedans, puis je fais ma bébelle. T'sais.
Sur ta pierre tombale, tu aimerais qu'on écrive « Depuis le temps qu'il voulait être à la retraite
».
C'est quoi? T'es-tu déjà tanné de travailler alors que t'aimes tellement ta carrière?
Ben oui, j'aime tellement ma carrière, mais là, plus de 30 ans, c'est assez. Non, c'est pas ce que je dis. Mais...
Non, mais t'as hâte d'être un retraité?
Oui.
Parce que c'est rare, ça, les artistes qui disent ça.
On s'en parle souvent.
Ça, c'est rare.
Imagine, Frank, à 83, on va se bercer tous les deux sur le bord du fleuve, puis on va se raconter nos peurs, puis nos histoires, puis on va refaire le monde, puis tout ça. Je me vois faire ça avec lui, tu sais, puis c'est sûr que ça va arriver.
Puis c'est dans un avenir, tu dis 80, ça, c'est dans 30 ans, là. Fait que vous voulez continuer quand même longtemps.
Non, moi, je prévois la semaine prochaine.
Ouais.
Ah, OK. Ben,
oui,
à la fin de Copilote pour l'été.
À la fin de Copilote, on prend notre retraite, c'est fini. Écoute, croustillant, cette boîte-là, écoutez ça, tout le monde. Dans ton questionnaire, tu nous as dit que ta virginité, tu l'as perdu en face de chez Ginette Renault.
Oui.
Peux-tu nous conter ça, s'il te plaît?
Oui, certainement. Ben, c'est parce que c'était l'endroit qui était pas mal disponible au moment où ça devait se faire. On fait la fermeture des bars, on marche, je suis avec un ami. Il y a un super beau parc à Boucherville en face de chez Ginette Renault avec une grande épinette de laquelle les branches tombent comme si c'était un abri. Tu sais? Fait que là, j'ai dit à la fille, je me souviens plus que j'ai dit, ça devait sonner comme...
Moi, je m'en fous, je veux pas savoir ce que tu as dit, je veux savoir son nom.
Ah, ça, ça commence par C. Ouais, ça commence par C.
Ça donne bien, on l'en nomme!
Parle-nous de ce merveilleux 15 secondes, mais... Non, c'est ça, ça, c'était pas réjouissant, mais l'endroit l'était.
Mais je suis content parce que j'ai lu ton questionnaire. Vite, à un moment donné, j'ai fait, il a perdu sa virginité avec Ginette Renaud.
Moi aussi, j'ai lu ça dans le train ce matin.
Non, ça,
j'ai
je l'aurais jamais dit, je l'aurais jamais dit.
J'ai fait, oh my God!
C'était en face et non pas avec.
Pas que Ginette n'a pas essayé, mais ça a juste pas
Écoute, dans ton questionnaire, on sent une grande influence du passé, dans ton amour de la musique, du vieux cinéma, des références historiques que tu fais dans des années 50 ou 60. C'est quoi, tu te considères-tu comme un nostalgique dans la vie ou t'es juste un vieux monsieur?
Je suis un vieux monsieur nostalgique.
Il est les deux!
Dans ces années-là, genre.
Ah, sacrifice, c'est hallucinant. Puis, tu sais, j'en parle pas trop, mais les années 80, c'est peut-être le summum des années quétaines, mais maudit que c'était créatif. Vous regarderez juste l'année 1984, le nombre d'albums numéro un, c'était un par semaine.
C'est vrai.
Prince, Van Halen, 1984, c'était toutes des hits.
Quelle musique qu'on joue ici.
Oui, c'est ça.
Finalement, François, tu réponds que ton défaut que tu aimes le moins, c'est l'impatience.
Oui!
C'est-tu votre impatience commune qui vous réunit, les gars? Parce que l'autre aussi, c'est un impatient.
Ouais, mais l'autre, il est moins pire parce qu'il l'assume.
Moi, je l'assume, je m'en fous. Mais ce qui nous a réunis sur Ladies Night, c'est Marcel Leboeuf.
Ouais. Ah ouais.
Comment ça? Parce qu'il est plus impatient?
Non, mais c'est parce que c'était comme une idole de jeunesse. Ben puis, oui. Tu sais, Marcel, on avait 14 ans, on le voyait à la TV, il avait déjà 50.
Ouais.
On a fait, hey, on va jouer avec Marcel Leboeuf, ça va triper. Mais quand on l'a vu nu sur scène, on a changé de vie assez vite.
Et c'est là que l'impatience est réembarquée.
C'est là que l'impatience est arrivée. On te salue, Marcel, dans ton vignoble à Saint-Hilaire.
Salut, Marcel, en odorama.
Écoutez, avant la chanson, vous parlez de déprime post-vacances. Écoutez, aujourd'hui, c'est le retour des vacances de la construction. Alors, vous sentez-vous fatigué malgré que vous revenez de vacances? Ben si oui, vous n'êtes pas tout seul. Pourquoi? Parce que selon une spécialiste en ressources humaines, après une petite déprime post-vacances, avoir une petite déprime post-vacances, pardon, c'est tout à fait normal. D'abord, sachez que cet état dure généralement de 1 à 3 jours. Évidemment, ne désespérez pas si votre début de semaine est difficile. Alors, voici quelques trucs pour gérer le retour de vacances pour que ça aille mieux, évidemment. Ne pas vous surmener. Souvent, on se motive à revenir fort. On veut revenir en Lyon, être ultra productif dès notre retour. Pourtant, c'est une très, très, très mauvaise idée. Écoutez, gardez vos heures de travail habituelles. Pensez pas que vous les devez à vos patrons de travailler plus parce que vous revenez de vacances, ça n'a rien à voir. Ensuite, un autre conseil à appliquer avant de partir en vacances, nettoyez votre espace de travail. Ça a l'air que revenir à un bureau propre vous aidera à ne pas vous sentir submergé par vos dossiers au retour. Bonne idée aussi. Mmh. Et même pour les personnes moins organisées, on conseille de suivre un horaire plus organisé lors de votre semaine de retour au travail. Écoutez, un cadran, pas de snooze, un bon déjeuner, une douche, se coucher tôt le soir, comme ça, votre cerveau comprend rapidement qu'il est revenu sur un horaire plus organisé que celui des vacances. Tu sais, s'établir une routine pour dire, OK, le beau temps est fini. Bien, pas le beau temps, mais je veux dire, les vacances sont finies. Maintenant, on reprend le travail, mais il ne faut pas venir fou non plus.
Structuré.
Exactement, être structuré. Alors, vous autres, êtes-vous du genre à revenir de vacances fatiguées ou reposées?
Ben moi, je reviens reposer, mais il paraît que toi, ça a été difficile.
Ah, chaigné. Quand tu donnes une anecdote de Cuba...
Ah, Cuba, ben non, mais là...
Puis, évite pas de détails, compte tout.
Ben, je sais pas, je suis resté couché pas mal tout le long.
Écoute, mais comment ça?
Il s'en va dans le sud,
ben oui.
Il aime pas le soleil, il fait trop chaud. Ouais. Il est resté dans la chambre toute la semaine.
Ben
quand
voyons!
Il est revenu, il est sorti de l'avion en chaise roulante avec de l'oxygène.
Ouais, mais ça, c'est une autre...
Ça tu sais, les vacances de rêve,
mais
là...
Mais ça, je pense que c'est deux voyages.
Non, c'est le même, m'en souviens très bien. Oui, écoute.
Mais t'as eu une maladie, t'as eu un épisode?
Non, c'est pas moi qui ai une maladie, c'est ceux là-bas qui font de l'animation avec des astitones plates. Ça, oui. Eux, ils ont une maladie, puis c'est moi qui en ai victime. Fait que là, dans ma tête, c'est ça. Je pouvais pas sortir du club. L'animation, là, « Hey, Seigneur, non, je suis en vacances, puis là, je m'en vais sur la plage. J'ai
trop chaud. Il fait le beau.
Ben non. Mais je pense que, aussi, psychologiquement, j'étais un peu atteint. J'écoutais de la musique down. Tu sais, tout ça. C'était une période de ma vie qui était dark, je pense.
Donc, est-ce que tu es retourné à Cuba depuis?
Cuba, oui.
Ah, okay.
Je suis retourné dans le sud plein de fois.
Okay,
dans ce
voyage-là,
c'était vraiment de la merde.
Mais il me comptait ça, je pleurais.
Mais
je suis pas sorti de la semaine, il faisait beau, j'étais dans ma chambre, je gossais sur mon téléphone, j'écoutais la télévision en espagnol.
Ouais.
Puis quand je suis revenu, je suis sorti de l'avion, je suis redondant avec l'oxygène, je filais pas pantoute.
C'est vrai, il a raison. C'est vrai.
Est-ce que vous êtes genre à prévoir des activités jusqu'à votre dernière journée de vacances ou si, mettons, si vous prenez une couple de jours avant pour vous remettre justement dans le mode travail ou vous étirez ça jusqu'au bout?
Il faut un peu un petit cool down, je trouve, surtout avec des jeunes enfants, moi, avec, avec le retour à l'école qui va s'en venir éventuellement, là, tu peux pas être dans le tapis là, jusqu'à la veille là, parce que là, En tout cas, moi, c'est sûr que c'est les vacances en ce moment pour mes enfants. Fait que c'est le chaos, ça se couche tard.
C'est ça.
Ça mange des bonbons comme ça, on n'a jamais mangé. T'sais, on est vraiment dans le laisser-aller, ce qui est important. Puis on en profite.
On se porte un film, il est 9h15.
Exactement, hier.
C'est exactement ça.
Et donc, ça vous fait pas plaisir que les vacances s'achèvent? Des fois, vous, moi, ça me fait plaisir. Les vacances avec les enfants, quand ça achevait, j'étais content.
Que ça se termine.
Ben, c'est sûr, parce que vacances avec enfants égale pas vacances.
C'est ça.
Égale, faut s'en occuper, faut les entertainer.
Oui.
C'est pas des vraies vacances, tu comprends? Oui, tu travailles pas, mais tu travailles quand même parce qu'il faut que tu t'occupes
des
enfants.
Mais c'est quand même des vacances, de la gestion d'organisation, des horaires. Moi, je trouve que ça allège mentalement là, la charge mentale.
C'est
sûr,
parce que c'est plus.
Il n'y a pas de réveil matin puis tout ça, là, ça fait quand même du bien à la tête.
Exactement. Ben, évidemment, nous autres, avec les métiers qu'on fait, avez-vous de la facilité à avoir parfois des longues périodes de vacances suivies de périodes de travail intense, surtout que souvent, nous autres, nos vacances, c'est pas des vacances qu'on a choisies, mais c'est parce qu'on est en attente de travail. Oui. C'est ça la différence.
Il faut transformer notre regard sur la chose. Dire, là, je suis en vacances, j'en profite pas. Ouais. Je me cherche de la job, j'angoisse.
C'est touché des fois. Tu dis, OK, on va prendre les deux semaines de juin, puis là, tu fais, ouais, mais t'as coup, j'ai un tournage, t'as coup, j'ai ça. Ça peut être compliqué, tu sais.
Ben, ta blonde faisait des jokes, d'ailleurs. Elle dit qu'elle t'a pas vu depuis le printemps.
Ben, on niaise, mais c'est un peu vrai. C'était toute une affaire à embarquer dans Symphorien.
Exactement.
Ça prenait beaucoup de temps.
En plus,
vrai.
Pendant que François répétait Symphorien, on préparait
la
notre
mise
show
en scène
aussi, de l'Institut à Saint-Mathieu-Ballet. Fait que c'était très complexe, tu sais.
C'était
des horaires assez.
Ma blonde a son entreprise, Hémisphère Formation. Tu sais, on se voit pas tant que ça, là.
Mais c'est peut-être ça qui fait durer votre couple?
Absolument.
OK. Alors, qu'est-ce qui rend les gens heureux au travail? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien au travail? Selon une étude menée par le site d'emploi Indeed, plus de 50 % des répondants de l'étude ont répondu que l'ambiance de l'équipe, là, ça, c'est synonyme de bonheur au travail.
Ça, c'est indéniable.
42 % mentionnent la rémunération, c'est sûr.
Évidemment,
à un moment donné,
c'est sûr que tu travailles fort, tu vas être payé en conséquence.
Exactement. 41 % le fait de ressentir des émotions positives pendant le travail. Tu sais, comme là, je suis heureuse là, quand je vous dis ça. Oui. Fait que je suis contente.
Dis-le à ta face.
40 % non, c'est à ta face. 40 % c'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Mais ça, je pense que c'est de plus en plus. Parce
Absolument.
Que moi, je me souviens, à l'époque de mon père, là, c'était, on avait l'impression que c'était 95 % travail, 5 % le reste. Ouais. Il se valorisait tellement dans le travail.
Seulement.
Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se valorisent dans le travail. Et c'est normal, c'est correct. Mais il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. C'est important. On est des pères, je pense, beaucoup plus présents pour nos enfants que nos pères l'ont été pour nous autres. Mais c'est parce qu'on veut cet équilibre-là aussi, puis c'est important, tu sais.
Des fois, des petites attentions, des petits détails auxquels on ne passe pas peuvent faire des grosses différences. Par exemple, un bel environnement de travail. C'est clair, là, quand on aime ça, que ce soit beau chez nous, pourquoi pas l'endroit où on passe 40 heures par semaine, être bien installé, avoir un beau bureau, être content de ce qu'on a. La flexibilité dans la gestion. Parfois, des personnes en autorité sentent le besoin de garder les choses comme elles le sont juste pour pas se compliquer la vie. Hein? On sait toutes, on a toutes des exemples. Mmh. Alors que t'as envie de dire, non, on peut trouver d'autres façons de fonctionner et de travailler. Puis, si tout le monde est d'accord pour qu'un collègue amène son chien au travail, là, par exemple, mais pourquoi pas?
Ben oui.
Ou de mettre une douche à disposition pour inciter les gens à venir au bureau en vélo. Pourquoi pas?
Tout à fait.
Des petits rituels uniques à votre entreprise, souligner les anniversaires, travailler en pantoufles, féliciter les petites victoires du quotidien. Ces petites habitudes-là font en sorte que votre équipe va avoir l'impression de faire partie d'une famille.
Hey, le 6-12-13 est en feu. Jess, écoute, il y a des gens qui nous écrivent par rapport au bonheur qu'ils ont au travail. Il y a Sophie qui nous dit « Je suis en télétravail depuis mars 2020. Alors, ce qui me rend heureuse, c'est de starter le souper ou une brassée pendant mes pauses. »
Ah, tellement!
T'es sur place, c'est le fun au bout.
Juste vous écouter me rend heureux au travail.
Yeah!
Je passe un bon 2 heures avec vous. Continuez à me faire rire. Hey, merci, c'est gentil.
Il y a quelqu'un qui nous dit « Écoute, je suis préposée aux bénéficiaires et rien ne me rend plus heureuse qu'un patient qui me dit avant de quitter « Merci d'avoir allégé mon séjour.
Wow. »
Seigneur, que ça fait du bien au cœur. Ces gens-là sont essentiels, effectivement.
Annie, wow, écoutez 3 idoles de jeunesse à la radio en même temps, c'est tellement extraordinaire. Merci pour votre superbe émission. Je vais m'ennuyer de vous autres. Merci Annie.
Merci beaucoup aux gens qui nous textent. Et lâchez pas 6-12-13, on va continuer à vous lire tout le long de l'émission. Dans les prochaines minutes, justement, l'émission, on parle de ce qui s'est passé au défilé de la fierté hier et de l'importance de cet événement-là. En plus, on va avoir un jeu spécial pour la journée internationale du chat.
Miaou!
Jess, tu vas l'animer, moi puis Chénie, on va se battre.
Ouais.
Notre collaboratrice Vanessa Destinée viendra faire son tour aussi. Après la pause, on parle d'une nouvelle télé-réalité, pardon, qui verra le jour au Québec. Bien hâte de vous entendre là-dessus. Restez là.
Et oui, c'est Copilote pour l'été avec Michel Charrette, Jessica Barker et François Chénier. Aimez-vous ça, les télé-réalités, vous autres, les gars?
Moi, ça dépend. Faut qu'il y ait un talent. Faut qu'il y ait un talent à la base, un concours, mais faut que les gens aient du talent. Moi, okay. Une émission vide où il y a juste des pitounes puis des pitons, ça m'intéresse pas.
On a quand même bien aimé ça, Big Brother.
Non, je te parle pas de ça, là. Ouais, on s'entend, là. Dans Big Brother, il y a du monde intelligent. Mais je te parle de d'autres choses où les gens sont légèrement vêtus, mettons.
Ah, bon. Je sais pas de quoi tu parles, mais en tout cas. Toi, François.
Je suis exactement à la même place que
les Michel. Les trucs de talent puis tout ça, ça,
ouais,
ça t'aimes
moi,
ça.
Moi, c'est important.
Ben, en fait. Oui, mais c'est surtout Big Brother. J'ai bien trippé là-dessus parce que ça implique des games mentales.
Ouais.
La game mentale, j'aime ça.
Ah oui, c'est ouais. Sûr que c'était le fun. Je vous demande ça parce qu'on apprenait ce matin dans la presse qu'une nouvelle téléréalité allait voir le jour ici au Québec, une téléréalité amoureuse pour personnes handicapées.
Bon.
Intitulée « Et si c'était toi », cette série de 10 épisodes animée par Varda Etienne sera offerte sur Ami Télé à partir de février. Dans chaque demi-heure, une personne célibataire en situation de handicap rencontrera 3 prétendants lesquels présentent un handicap ou pas. Là.
Bon, et ça, j'aime ça.
Ouais, au terme des tête-à-tête, la personne devra sélectionner son coup de cœur. Parmi les concurrents, on trouve des célibataires atteints de déficience intellectuelle, de surdité, d'un trouble du spectre de l'autisme et d'autres en fauteuil roulant à cause d'un accident ou alors d'une maladie. Le recrutement des candidats a commencé au printemps et il paraît que c'est plus facile que prévu.
Bon,
les gens ont été super nombreux à se présenter parce que c'est difficile de rencontrer pour eux via les méthodes traditionnelles. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que c'est une émission que vous auriez envie d'écouter, vous autres? Moi, en tout cas, vraiment. C'est ça, je l'écoute.
Ben, écoute, ça dépend. C'est parce que, tu sais, il y a une émission aux États-Unis, on en parlait hors d'onde, où c'est des personnes de petite taille qui sont là. Puis beaucoup de gens écoutent ces émissions-là pour se moquer de ces gens-là, ouais. Ou c'est du voyeurisme. Moi, c'est ça qui m'inquiète. J'espère juste que ces gens-là vont être pris au sérieux puis que les gens vont écouter cette émission-là pour les bonnes raisons. Parce que c'est sûr qu'il y en a des gens qui vont vouloir rire d'eux autres puis ci, puis ça. Et c'est ça, moi, qui me fait de la peine puis qui me trouble. Alors, est-ce que je vais l'écouter? Je le sais pas. Je vais peut-être écouter la première émission pour donner une chance au coureur puis voir ce que c'est. Mais si je vois que ça se tourne vers un freak show, puis tout ça, moi, ça m'intéressera
mais
pas.
Mais c'est là. Sûr que ça sera pas le cas parce que Ami Télé, c'est quand même à la base des productions qui mettent de l'avant des réalités différentes. Fait que la production ira pas dans cet angle-là.
Ben, il faut parce que
après
sinon,
ça,
ça marche pas.
Que la personne dans son salon vit ce qu'elle veut vivre puis veut rire,
non,
ça, c'est son problème,
correct,
ça appartient pas.
Mais
c'est
pas
sûr
que...
qu'au niveau de la signature de la production, ça
bon,
sera pas le cas.
Mais tant mieux.
Absolument.
Surtout pas si c'est animé par Varda Etienne.
Qui a des conditions mentales fragiles.
Elle va être à la défense des concurrents, c'est sûr,
absolument.
La connaissant un peu. Ceci dit, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il n'y a pas quelqu'un dans une réunion de prod qui s'est dit ben, « peut-être que ça va nous attirer de la cote d'écoute ».
Bien, ça, c'est sûr, parce que ça attire...
Évidemment,
ça,
tu fais des shows pour ça aussi.
Ça pique la curiosité, tu sais.
C'est pour ça qu'on restons, comme tu dis,
critique.
Regardons,
puis donnons ça. Une chance, puis après ça, on jugera. T'sais.
Trouvez-vous qu'il manque de personnes handicapées dans notre télévision? Absolument.
Ben, c'est sûr, oui. Évidemment.
Je veux dire, c'est une réalité qui ne fait pas partie de l'offre télévisuelle, nulle part, alors qu'il y aurait tellement de possibilités, puis il y en aurait tellement qui seraient capables. Puis tu sais, je trouve qu'on devrait tellement ouvrir ces horizons-là. J'espère qu'on va découvrir peut-être des gens qui auront des certains talents pour faire de la chronique ou de la collaboration, peut-être même de l'animation, parce que je sais que c'est pas donné à tous d'être à l'aise devant une caméra. Ça, je comprends. Mais après ça, je pense qu'on peut ouvrir un petit peu nos horizons.
Oui, puis diversifier aussi l'offre, dans le sens que souvent, on voit des personnes handicapées, mais souvent des gens qui souffrent de déficience intellectuelle.
Absolument.
Ou qui souffrent de trisomie 21. Mm. Mais il faut en montrer aussi des gens en chaise roulante, des gens qui sont handicapés, qui manquent des membres, ouais. Des choses comme ça. Il y a ça aussi qui manque à l'écran. Souvent, quand on montre un handicapé à l'écran, c'est quelqu'un qui souffre d'handicap intellectuel.
Absolument.
Mais le spectre est large, là, tu sais. Là, je veux dire, on peut montrer beaucoup, beaucoup plus de gens que ce qu'on montre maintenant, tu sais.
En tout cas, je suis très curieuse de découvrir cette nouvelle émission-là à mi-télé, puis je serai à l'écoute absolument
en février.
Écoute, il y a
un paquet de téléréalités à travers le monde qui sont très, très surprenantes. Fait que je vais vous en nommer une couple. Il y en a une qui s'appelle Pig Brother, Pig comme un cochon. Alors, le concept de cette émission autrichienne, c'est très simple. Les spectateurs doivent voter pour leur cochon favori. Ah. Jusque-là, ça va. Sauf que la finale de Pig Brother est un petit peu plus trash. Le gagnant est un membre du public qui se mérite des produits du porc. Fait avec le cochon en question.
Fait qu'on a aimé le cochon, puis après ça, on va le manger.
Exactement. Il y a un autre télé-réalité spéciale de Sex Factor. Alors, The Sex Factor, c'est une web télé-réalité évidemment produite par un site porno. 16 candidats, 8 femmes, 8 hommes qui s'affrontent pour devenir la prochaine star du X. La seule condition pour participer, ne jamais avoir fait une partie de jambes en l'air devant une caméra. Alors, les deux gagnants remportent un contrat avec une boîte de production pornographique et se méritent une somme pouvant avoisiner le million de dollars. Frank, je te verrais là-dedans, moi.
Ben oui. Non? Je travaille ça, je suis en train de me fluffer, puis je vous donne des nouvelles.
Tourette's Superstar. Produite par la BBC, cette télé-réalité offre à trois personnes atteintes du syndrome de Gilles de la Tourette la possibilité de chanter.
Good.
Le but officiel, c'est de prouver que l'on peut suivre une carrière artistique malgré son handicap.
Bon, mais ça, ça a du sens. Ça, c'est le fun. Au moins, tout le monde peut avoir une chance. Alors, au retour, on se fait un quiz. Ça te tente-tu, Frank, de jouer?
C'est moi qui l'anime.
Parfait. Bon, on le sait. Slack un peu, là.
Copilote pour l'été, 16h44. Aujourd'hui, le 8 août, c'est la Journée internationale du chat. Bon, tant qu'à moi, ça aurait dû être le 19 au lieu du 8. Comme ça, on sera plus en onde, puis j'aurais pas eu à faire un quiz sur les chats. Mais bon...
Mais pourquoi tu dis ça?
J'aime pas les chats. Ah.
Moi non plus, dans le fond. T'as bien raison, moi non plus.
Ben, c'est ça. Mais c'est pas grave, parce qu'on a quand même eu le goût de faire un quiz. Alors, c'est simple. C'est un quiz de culture générale. Toutes les réponses comprennent la syllabe chat.
Ah.
Comprenez?
Okay. Fait que c'est pas un quiz sur les chats.
Non, ben, on parlera large, pas de okay. On parlera pas de si à moi.
Parce que en fait, pour être honnête avec les gens, on a déjà fait un quiz sur les chats avec Guylaine Tremblay. Mais vu que c'est la journée du chat, Félix, notre scripteur, il a eu la bonne idée de faire oui, mais on va élargir ça puis on va inclure le mot chat dans chaque mot.
Parfait.
Alors, Félix étant un gars extrêmement intelligent, on a dit oui.
Alors, François, comme c'est ton premier quiz, je t'explique, quand t'as la bonne réponse, tu dis François.
Ouais.
Pas obligé de dire Chénier, mais non. Simon Boulris lui disait Simon Boulris.
Simon Boulris.
Ouais, ben c'est vraiment personnel.
Je pense,
en crachant dans
intense, un moment donné, il a répondu Simon Boulras.
Ouais.
Bon, ben.
Et on essaie de me laisser finir la question.
Okay.
C'est difficile pour collègue Charlotte.
Oui, on a compris.
Mais il faut quand même, à un moment donné,
je veux répondre. Go, go, go.
Calme-toi.
Regarde s'il est dedans.
Alors, on commence.
Château, chapeau.
Ben là, tabarnak, c'est la première réponse.
Yes!
Hey, tu viens de sacrer, ta première fois cet été.
Tu m'as tué!
Ah, ouais. J'ai déjà eu la première...
La première question est annulée! Oh,
Champagne, Chantal Barry.
Ah non, arrête! Tais-toi! Bon, OK, alors, ce qui sort quand on rejette quelque chose par la bouche.
Michel, Charrette.
Oui?
Chancremou.
Non. Ah.
Chalive.
Non.
Voyons. Crachat.
Bravo, hey, François! C'est François qui a eu la bonne
réponse. Là, les gars en arrière, vos gueules.
Non.
JF, t'es en stage.
Hey,
hein?
Là,
un mot, moi, t'es plus ici tout à l'heure.
Là, on va calmer l'énergie.
Non, mais non, là, il est là qui crie la réponse en arrière.
Hey, oui, mais parce que c'est le fun. Nom de la ville où a lieu le tournoi de hockey des Boys 2.
Michel, j'arrête.
Ben oui, faut que je dise ton François, nom, t'as raison.
Chamonix ou Chamonix, c'est selon.
C'est selon, ça, c'est vrai. On a un extrait qui chante ceci.
Michel Charrette! Charlotte Cardin! Charlotte!
Il est en feu!
Non, non, mais j'ai pas de temps à perdre, moi.
Non, non, non.
Dans le conte avec un loup, le sien était rouge.
Michel Charrette, le chaperon rouge! Hey, Frank, le quiz a commencé.
Ben
c'est quand tu veux,
moi,
mon homme.
Moi, je t'assure, c'était le chat botté. Tab!
Non, 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 non. C'est pas la même affaire.
Dans le monde du cirque, on marche avec pour se donner de la hauteur.
Michel Charrette! Des échasses!
Ben oui, mais là, moi, je suis pas capable de le dire vite, mais je suis capable de le dire.
Hey!
Oh, mon Dieu!
Ah oui, ah oui, ah oui!
Il peut être melon ou autre...
François, charrette, chapeau!
C'est François qui a le point.
OK, go, qu'enchaîne.
À Montréal, c'est la rue où se trouvent les industries textiles.
Chabanel.
Là, t'es croche, mon mot.
Non.
Là, il dit son nom, puis après ça, il réfléchit à la réponse. Ça, là, c'est un truc de vieux mononcle.
Alors, pointage final, 4-3 pour Michel Charrette. Mais t'étais excellent, François. Alors, tu vas sûrement gagner dès demain un prochain quiz est en rédaction.
Non, oui, pour vrai. Mais je pensais d'avoir la réponse Carl 4 Charrette, à un moment donné. Écoute, merci tout le monde de nous avoir choisi. Beaucoup de gens aujourd'hui sont de retour au travail ou encore en vacances. Alors, il nous reste 2 semaines ensemble avant le retour de Véronique et les Fantastiques le 22 août. Restez avec nous autres, tout le monde, dans Copilote pour l'été sur les ondes de Rouge, évidemment, avec François Chénier, notre invité cette semaine.
Michel Lepognier, la Chamédia.
Copilote pour l'été.
Vous écoutez Copilote pour l'été avec Jessica Barker, Michel Charrette et notre invité pour la semaine, François Chénier.
Oh, okay, oui, encore
le 4-4, c'est quoi son nom?
Le 4-4 Charrette.
4-4 Charrette.
C'est le fun, tu l'as écouté le show?
Ben non, j'ai jamais écouté ça de ma vie, moi.
Encore une grosse
heure. Je faisais de la TV.
Ouais, c'est ça.
J'avais pas le temps.
Bon, je peux-tu dire ce qui s'en vient pour la prochaine heure?
Non, ça m'intéresse pas trop.
Ben, je le sais bien, c'est le fun. C'est le fun pour Vanessa Destiny qui vient d'arriver dans le studio.
Hein?
Bravo, Jess.
Elle m'intéresse.
Alors, au menu pour la prochaine heure, on a découvert la formule pour se lever de bonne heure tous les matins. Alors, je vous révèle ça. On parle en plus du défilé de la fierté.
Et notre collaboratrice, Vanessa Destiny, vient nous parler de quoi?
D'insécurité alimentaire.
Aïe, aïe, aïe.
C'est un sujet dont on parle pas beaucoup durant la période estivale et je pense que c'est quand même très préoccupant.
c'est Vanessa Destiné qui fait son entrée dans le studio.
Je pense que ton jingle t'en viendra jamais. Hein?
J'aimerais ça l'avoir en
copie. Mais c'est sûr qu'on te le donne.
Après l'émission.
À la fin de la saison.
Ça va
merci.
Être ta sonnerie de celui-là.
Ben oui.
Hey, ça serait hot. Vanessa, tu viens nous parler de l'insécurité alimentaire, un mal invisible.
Tout à fait. Mais en fait, moi, le point de départ, c'est un reportage bouleversant que j'ai vu dans Radio-Canada, signé par Caroline Levasseur-Tremblay, qui parle de ce phénomène-là qui est encore tabou. C'est pour ça qu'on dit qu'il est invisible, parce que les gens en parlent très peu encore à cause de la honte associée à tout ça. Et là, je parle pas de gens qui vivent dans une extrême pauvreté mm-hmm. ou de personnes itinérantes, par exemple. Je parle de l'insécurité alimentaire qui guette de plus en plus de personnes à travers le pays.
Absolument.
Au Québec aussi, ça y fait pas exception, et pas juste à Montréal, partout dans les grands centres urbains et même en région rurale. L'insécurité alimentaire, c'est vraiment l'incapacité de se procurer ou de consommer des aliments de qualité. Et là, j'insiste vraiment là-dessus, parce que des ramen en sachet puis de la soupe en tomate en
canne, on vit pas là-dessus.
C'est bon, mais c'est pas suffisant.
C'est pas nourrissant, là.
C'est ça, pour aller chercher les nutriments, pour avoir de l'énergie puis le sentiment de ventre plein. Donc, on parle de bouffe de qualité ou en quantité suffisante également, de façon aussi socialement acceptable. Donc, pas avoir besoin de mendier ou encore de se prostituer. Mm-hmm. Et ça, c'est un fait vécu. J'ai déjà été, moi, petite anecdote, interrompue dans un reportage avec une intervenante par une femme qui nous demandait du pain. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu à manger. Elle voulait manger du pain, simplement pour subvenir à ses besoins de base.
C'est du pain, là.
Et malheureusement, on n'était pas dans la capacité de lui fournir dans l'immédiat. Et elle nous avait vraiment répondu, ben, je vais devoir aller me prostituer pour avoir une tranche de pain.
Ben,
c'est vraiment, c'est brutal. Là, mais ça, c'est au Québec. Puis ce que je vous raconte, c'est quelque chose là, qui remonte à 2018. Là, donc, c'est assez récent.
En ce moment, avec l'inflation, puis tout, c'est
exactement,
pire.
La crise du logement aussi. Ben, en fait, ce que les chercheurs constatent, c'est que l'insécurité alimentaire gagne du terrain au Canada, donc à l'échelle du pays. C'est vraiment un phénomène. Bon, en fait, on dit qu'un Canadien une Canadienne sur cinq a souffert de la faim au moins une fois entre mars 2020 et mars 2022. Donc ça, c'est
pandémie.
Les
pandémie.
C'est récent, là, exactement. Pendant la pandémie, quand les gens ont vu leurs revenus fondre au soleil, comme neige au soleil, on sait, bon, c'est ça, tu parlais d'inflation, de la crise du logement aussi, et ça fait craindre le pire à des ménages, en particulier les familles monoparentales, les personnes âgées. Je rappelle qu'au Québec, par exemple, le salaire médian est d'un peu moins de 35 000 $ Donc mm-hmm. ça laisse très, très peu. En fait, ce que les chercheurs estiment, c'est que la plupart du temps, quand les factures commencent à s'accumuler, avec en tête celle du loyer, qui est indispensable, parce que les gens vont toujours prioriser le fait d'avoir un toit sur la tête. Ce qu'on coupe en premier, c'est l'épicerie.
Mm-hmm.
Et les femmes, entre autres, là, souffrent particulièrement de ça. Et à moyen terme, bien évidemment, vous le savez, là, ça crée de la détresse. Ça peut entraîner toutes sortes de problèmes de santé physique, mentale. D'abord, oui, les carences, on en parlait, ça va causer de l'hypertension, ça a un impact sur le diabète. Mais le stress aussi, ça va avoir tout un impact sur la santé mentale, sur les maladies cardiovasculaires, anxiété, dépression, parce que ça devient une quête, en fait. Ça devient une quête quotidienne de se nourrir à bas prix. Les gens sont après, on a vu des témoignages là, de gens dans les organismes à travers le Québec qui parlaient de devoir mettre sous clé certains aliments périmés pour éviter que les gens se les arrachent, se les procurent, parce qu'on est rendu là à consommer des aliments impropres à la consommation, en fait. Chez les enfants, ça va créer toutes sortes de problèmes, l'hyperactivité, des problèmes de comportement. Et évidemment, ça entraîne des coûts importants pour le système de la santé. Donc, on a tout intérêt comme société à éviter, à s'assurer que les gens ont des revenus dignes de ce nom, que les salaires suivent enfin le coût de la vie. Parce que le coût, là, dans le système de la santé d'une personne qui vit une insécurité alimentaire légère, c'est 23 % de plus que quelqu'un qui vit sans insécurité alimentaire. Modéré, on parle de 49 % et grave, 121 %. Donc, c'est énorme. Et évidemment, bon, on sait que les Québécois sont super généreux en hiver durant le temps des fêtes aussi.
J'allais dire, il n'y a pas juste la guignolée.
Non, exactement.
J'allais le dire.
L'insécurité alimentaire, c'est à l'année longue que ça se passe. L'été aussi, ça crie famine. Les organismes ont besoin d'aide, ont besoin de bénévoles. J'ai été assez recherchiste assez longtemps pour savoir qu'ils nous appellent là, dans les stations de radio pour qu'on fasse des reportages sur eux, parce qu'ils n'ont pas assez de visibilité pendant l'été, parce que tout le monde a l'esprit un peu ailleurs, tu sais. Et pourtant, on a faim, et quand il fait chaud, durant des périodes de chaleur accablante, c'est important de pouvoir se nourrir, parce que ça cause toutes sortes de problèmes. On ne peut pas passer à travers la journée sous une chaleur accablante. Donc, je vous rappelle de donner beaucoup et donner aussi des choses que vous aimez manger. Là, pas vos vieilles cannes de Chef Boyardee.
Qui traînent dans l'armoire depuis des...
Non,
on va se débarrasser de ça.
Des vieilles sardines. Donner des choses que vous-même, vous aimeriez recevoir. Donner le droit aux gens. Le droit à la dignité, c'est aussi d'avoir le droit de manger des trucs le fun.
Qu'on aime.
Même des bonbons,
des friandises,
de
luxe
des fois,
aussi,
une fois de temps en temps pour les familles. T'sais, juste pour avoir un répit puis penser à autre chose. T'sais.
On parle souvent aux éléments de base, mais tu sais, des fois, tu rajoutes du
chocolat.
Une
palette de chocolat.
Toutes ces choses-là qui deviennent là, absolument inaccessibles, ça va faire toute la différence.
Et des produits sanitaires, je rajoute aussi pour les femmes, les couches, dans les denrées non périssables.
Souvent, les gens qui souffrent de ça, on ne soupçonne pas que ces gens-là souffrent.
Exactement.
Qui ont de la misère à s'alimenter convenablement. Tu sais, t'as l'impression que tout va bien de l'extérieur, mais il y a des gens qu'on serait surpris d'apprendre qui ont besoin de ce service-là dans la vie.
Voilà, c'est pour ça
qu'il
faut vraiment sortir du cadre. Ah, les personnes itinérantes, les personnes qui sont sur le bien-être, sur l'aide sociale, ça va au-delà de ça. Ça touche maintenant la classe moyenne. Donc.
Merci, ma belle Vanessa. C'est toujours intéressant. Tu viens quand tu veux, évidemment. Écoute, on te garde avec nous parce qu'après la chanson, on va parler de ce qui s'est passé dimanche à Montréal avec le défilé de la fierté, évidemment. Coup de théâtre et l'importance de cet événement-là encore aujourd'hui en 2022. Écoute, on a vu passer ça. Hein? Hier, c'était supposé être le défilé de la fierté à Montréal, mais l'événement est annulé le jour même à quelques heures de l'événement. En matinée, le directeur général de la fierté Montréal, Simon Gamache, affirmait qu'environ 80 bénévoles manquaient à l'appel afin de pouvoir bloquer les rues le long du trajet. Là, je veux juste préciser aussi que c'est pas la faute de la ville de Montréal ni du SPVM, mais bien celle de l'organisation. Alors, jusqu'à tard samedi, l'organisation espérait toujours pouvoir mobiliser assez de ressources, mais évidemment, personne ne voulait annuler l'événement, surtout après 2 ans d'absence à raison de la pandémie. Mm-hmm. Tout le monde attendait ça, ce retour-là, avec impatience. Bon, là, évidemment, il y a eu des cas de COVID dans l'organisation, les vacances, tout ça, il fait beau, il fait chaud, un paquet de facteurs le rejoint d'impact. Puis s'il manque de personnel d'un job rémunéré, imaginez comment c'est dur de trouver des bénévoles à ce moment-là.
T'sais. Hey, tellement un bon point. Ben, il manque de staff partout.
C'est sûr. Fait que là, la mairesse Valérie Plante s'est dit déçue, évidemment, de ne pas avoir été mise au courant qu'il manquait du personnel puis que la Ville aurait mis les efforts nécessaires à ce que l'événement ait lieu quand même. Surtout que la Ville investit 600 000 dans la fierté cette année, dont la parade est l'événement fort. C'est tout ça qui est le climax de tout ça. Fait qu'elle a demandé qu'on rende des comptes, évidemment, avec un post-mortem. J'espère qu'il va avoir un post-mortem, puis qu'il y a des gens qui vont parler, puis on va savoir c'est où le problème, tu sais.
Quelle tristesse. Puis Vanessa, tu voulais absolument en parler parce que c'est comme une situation, là. On était toutes déstabilisées hier quand on a vu ça arriver live, l'annulation.
Totalement, ben parce que comme le disait si bien Michel, c'est un événement fort de la fierté, tu sais, des célébrations qui entourent là, cette grande communion qui est pour l'acceptation, en fait, de tous les membres de la communauté LGBTQ+. Et là, je pourrais continuer avec toutes les lettres, vous le savez, de l'acronyme. Je pense que cet événement-là est important. Évidemment, moi, je suis une femme cisgenre hétérosexuelle. Je suis pas la mieux placée pour en parler. Mais ce que je comprends par rapport à la discrimination, c'est qu'il y a toute une histoire, parce qu'on a l'impression souvent que la différence sexuelle, les minorités sexuelles sont acceptées aujourd'hui, en 2022, que ça a plus sa place de toute façon, qu'on est rendu ailleurs. Hein. C'est certains des commentaires qu'on voyait sur les réseaux sociaux à l'annonce de l'annulation. Et pourtant, on connaît très, très mal l'histoire de la communauté gay en général et de toutes les autres communautés qui sont marquées par des histoires de violence, des histoires d'horreur, de discrimination. Là, c'est pas juste des mauvais mots, des mots qui commencent en T ou en F qu'on lance comme ça. Là, on parle de trucs vraiment sordides qui se sont passés. Par exemple, dans les années 90, saviez-vous qu'il y avait 17 hommes qui ont été tués dans des circonstances très nébuleuses dans le village gay de Montréal? Mm-hmm. Donc, qui ont été assassinés. Ce sont des crimes haineux et il y a très peu de gens qui savent ça. Il y a eu le meurtre, entre autres, de Joe Rose en 1989 en sortant d'un autobus qui avait été ciblé parce qu'il était un homme gay et qui avait été tabassé par une gang de jeunes. Il était mort là, des suites de l'attaque. Il y a eu toute la violence entourant là, le sida aussi dans les années 90. Donc, vous saviez la discrimination à l'égard des 4H, donc les haïtiens, les hémophiles, les héroïnomanes et les homosexuels. Et jusqu'à tout récemment, les hommes gays ne pouvaient pas donner du sang.
Ça vient de changer.
Mais il y a un flou.
Ah ouais?
C'est pas clair.
C'est vrai, parce qu'on met tout le temps en cause là, le fait de ne pas se protéger adéquatement ou encore les relations sexuelles anales. Mais c'est toutes des choses qui concernent aussi les couples hétérosexuels.
Absolument.
Et pourtant, on fait une fixation sur les couples homosexuels. Il y a eu des descentes dans les bar gays. La dernière descente dans un bar gay de Montréal, c'était en 1990. Donc, vous pouvez imaginer, ça fait pas si longtemps
que ça.
Il y a eu une tuerie il y a quelques années dans une boîte de nuit d'Orlando fréquentée par des membres de la communauté LGBTQ+. Il y a toute la question du bi erasure, donc le fait qu'on voit jamais aussi de représentation adéquate des personnes bisexuelles. Il y a le problème de lesbophobie où souvent les femmes lesbiennes, tapez femmes lesbiennes dans Google, là, jusqu'à tout récemment, l'algorithme nous mettait des femmes dans des situations pornographiques. Mmh. On n'avait pas des couples normaux de femmes lesbiennes. C'était une catégorie de pornographie. Et là, tranquillement, ça commence à changer au même titre que les mentalités. Mais il reste encore énormément de travail à faire. Et tout ce travail-là se fait grâce à la mobilisation des minorités sexuelles. Justement, pour montrer à quel point ces luttes-là sont très, très politiques. Il y a toute la question question de la transphobie aussi, qui est peut-être l'élément le plus récent, parce qu'on a l'impression que c'est nouveau des personnes trans. Or, pourtant, les événements de Stonewall aux États-Unis, qui est vraiment le moment là, de libération des communautés gays, où il y avait des descentes, ça a été porté par des personnes trans, des hommes en drague également, qui se sont battus contre les policiers qui faisaient sans cesse irruption dans les bars pour les arrêter carrément parce que c'était jugé immoral. Donc, tout le mouvement de révolution là, à l'égard des droits des minorités sexuelles est passé notamment par la communauté trans. Et ça, c'est pas assez souligné. Il y a la question des personnes bispirituelles aussi, donc les Autochtones, qu'on a longtemps nié l'identité sexuelle du double genre, donc un peu femme, un peu homme. Et juste de lire les commentaires sur Barbada sur les réseaux
absolument,
sociaux.
Oh absolument.
Tu sais, des choses comme ça, d'avoir Barbada qui doit se rendre dans une ville sous escorte policière pour lire des livres.
Un conte pour enfants.
À des enfants.
Barbada se promène dans les bibliothèques à travers le Québec et raconte des histoires aux enfants. C'est un homme qui est déguisé en femme. C'est
un personnage
drag queen. C'est pas...
Ils sont capables de gérer des mascottes. Ils vont être capables d'acheter Barbada.
C'est absolument théâtral et pas du tout dans aucun rapport sexuel.
Exactement. Contrairement aux mascottes.
D'ailleurs, absolument.
Toujours sexuel,
les mascottes. Toujours le cas.
Beaucoup de tension chez Youpi.
Y a d'ailleurs une émission pour enfants qui a été produite et tout ça, pour moi, n'a aucun sens, mais je sais que c'est une réalité qui n'est pas encore acceptée de tous. De là l'importance d'un défilé comme
exactement.
Ça. De là l'importance de ça et de là la grande déception. Et je sais que partout au Québec, c'est la réalité, le manque de bénévoles dans les festivals, entre autres. Alors, on salue tous ceux qui donnent du temps en bénévolat parce que ça fait la différence.
C'est les autres qui font que l'événement fonctionne.
L'événement a été annulé hier à cause de ça. Ouais. Donc, c'est très, très décourageant. Puis, on espère pour l'avenir, l'année prochaine, que ce sera une grande fête. Merci, Vanessa.
Mais je pense qu'ils ont eu leur leçon. Je pense qu'ils vont se
organiser. Hein. Cette semaine, François Chénier passe la semaine avec Michel Charrette et moi. Ouh. Mais mercredi, c'est Lise Dion qui sera avec nous autres alors qu'on sera en direct de Gatineau.
Exactement.
Merci d'avoir choisi Copilote pour l'été. Au retour, on vous dévoile la formule pour être de bonne humeur à tous les matins. Restez avec nous autres. Copilote pour l'été avec Michel Charrette, allô. Jessica Barker et François Chénier.
Bonsoir.
Fait que là, on a un sujet qui s'appelle, pour être de bonne humeur tous les matins, un sujet que tu avais vraiment envie de parler, Michel.
Ouais. Ah, ça m'intéresse beaucoup.
Mais je t'annonce officiellement qu'on parlera pas de tout ça. Faites rentrer notre invité, s'il vous plaît. Non. Monique Néron.
Ben, voyons donc.
Qui rentre dans nos studios pour un deuxième chance de Michel Charrette.
Oh!
Enfin!
On se voit!
Je t'avais promis qu'on allait faire de la radio les yeux dans les yeux.
Ben, vous êtes donc bien extraordinaire.
François Chénier, Monique Néron. Salut, Monique.
J'ai chaud, j'ai jambes molles.
Oui. Alors, pour mettre en contexte les auditeurs, le 6 juillet, Monique était notre copilote et on a parlé des gens importants dans notre vie. On écoute l'extrait.
Moi, je suis au cégep Maisonneuve. J'étudie en sciences humaines, pas de maths. Tout ce que je veux, c'est mon diplôme d'études collégiales pour rentrer au conservatoire dans la dramatique de Montréal. Et à un moment donné, il faut faire le stage. Ils choisissent 30 personnes pour faire le stage et sur les 30, ils en prennent 12 pour faire l'école. Alors, le stage adonne en même temps que j'ai un examen de politique au cégep. Là, je vais voir la prof. Je me souviens pas de son nom. Je suis tellement désolé. Mais c'est un professeur de politique au cégep Maisonneuve dans les années 88.
Mais là, on va mettre mon équipe de deuxième chance là-dessus.
Absolument.
Ben là, tu sais, t'as dit quand on s'est rencontrés, qu'on a fait de la radio ensemble en début d'été, que j'avais deux vitesses, hein?
Ouais.
Au bout ou relax, ça, c'est la version très, très au bout de moi que tu vas rencontrer aujourd'hui. Et Michel, les gens ne savent peut-être pas, m'a souvent écrit le samedi soir après l'émission Deuxième Chance, et je cite, « Je te déteste, je suis tannée de brailler chaque samedi soir à cause de ton show. » Et je vous propose aujourd'hui de laisser le public être ému par son histoire, par ton histoire, Michel. Il y a un moment, ce moment qu'on vient d'entendre, qui, moi, m'a beaucoup touchée quand tu as parlé de cette prof qui, selon ce que tu nous as dit, a changé la trajectoire de ta vie d'une certaine façon. C'est ça, tu confirmes?
Oui, je confirme.
T'as l'air sous le choc un peu en ce moment.
Mais là, c'est parce que je ne sais pas ce qui se passe.
Laisse-toi porter.
J'ai vraiment très chaud.
Ne reculant devant rien, à partir du 6 juillet dernier, j'ai décidé de partir à la recherche de ton prof,
ben,
Michel.
Donc.
J'avais en poche... Comme ça, l'information. Cégep de Maisonneuve, 87-89. J'ai souvenir de recherches épiques à Deuxième Chance où l'équipe est partie avec à peu près rien. c'est-à-dire un prénom. Mm. Dans ce cas-ci, je n'avais ni prénom.
Non, c'est ça.
Ni
tu t'en rappelais pas.
Rien, niette. On remercie ta mémoire au passage. Ton principal outil de travail, n'est-ce pas? Ex-aequo avec ton talent.
j'ai pas gardé mes bulletins. Je ne pouvais pas voir le nom de la personne.
Puis c'est super parce que il n'y a pas eu beaucoup de profs de cégep au Québec depuis 1987.
À peine.
Fait que c'est comme ça que je suis tombée dans les méandres des groupes de profs retraités. J'ai connu le très motivé Jean-Guy Daou, qui a fait un travail de moine. Jean-Guy a réussi à retracer toutes les profs qui ont passé par le département de sciences politiques à l'époque de ton passage au cégep, Michel. On parle ici de vérification intensive, vraiment digne de mention. Malheureusement, rien. Ça n'a rien donné, rien qui corresponde à ton récit. Un récit chaud, profondément touchant.
Il est pas bien.
Mais relativement flou quand vient le temps d'identifier quelqu'un formellement. Mais toutes les profs jointes qui pouvaient correspondre, elles étaient nombreuses, je vous en passe un papier, ne se sont pas reconnues dans ton témoignage. Mais mon nouvel allié Jean-Guy et moi, on n'allait pas se laisser abattre. On s'est dit, peut-être mec, Michel t'est mêlé, tu sais, le cégep des fois. Mmh. On n'est pas toutes là. Fait qu'on a cherché au-delà du département politique. On a étendu nos recherches aux sciences sociales. On a lancé plein de perches à l'eau. Ça mordait pas. Je tombe en vacances. Ça mordait pas pantoute dans ma chaloupe non plus au chalet. Fait que là, j'essayais de me reposer de mon année, le fille pas pantoute occupée, en me disant, il n'est pas question que Véro reviennent sans que j'ai trouvé la propre Michelle.
Ah, voyons.
Une maudite chance qu'il y avait du champagne dans ma chaloupe.
Wow.
La bonne nouvelle, c'est que je suis incapable de lâcher mes courriels en vacances, donc 14 juillet. Madame Néron, Louis Caron, j'ai eu vent de vos recherches. Je pense connaître la personne qui a posé le geste que vous décrivez. Une ancienne collègue qui aurait passé une grande partie de sa carrière au cégep Lionel Groulx. Alors là, nouvel indice, collège Lionel Groulx. J'ai dit cégep collège. Mon enquête était relancée. On repart, tout est possible. Mais là, le temps file.
Mais oui.
Je suis de retour dans les méandres des associations de profs. Et là, une prof, mon instinct me guide vers elle. Je sais pas pourquoi. Madame Nadeau, elle est sur Facebook. Elle collabore. Puissance 1000. Malheureusement, rien. Rien dans les répertoires, rien dans les banques de données. Et là, on me réfère aux voies officielles, t'sais, les communications.
Ouais, ouais.
Ceux qui sont sains d'esprit et normaux et qui ne regardent pas leur courriel quand eux sont en vacances.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup. Super, mon chien était presque mort. Jusqu'à la semaine dernière.
Non.
Ou, contre toute attente, après avoir eu le temps de fêter mes 36 ans, d'essayer de mettre mon ado de 3 ans propre, de ne pas aller à Oceaga, d'apprendre à faire des pâtes fraîches, d'échouer lamentablement à mettre mon fils propre. À cet instant précis où j'étais dans le jus à gérer ma coupe de vin, mon cellulaire, dans les cordes de mon hamac au chalet, un message entre sur Facebook. La prof, Mme Nadeau, s'était transformée en Colombo estival pour résoudre le mystère de l'enseignante avec un grand E, Michel, celle qui aurait changé la trajectoire de la vie du grand Michel Charest. Elle a tout donné, cette femme-là, retracée d'anciens collègues, des appels à tous, multiplier les démarches. Et c'est comme ça que, tout bonnement, au bout de 27 jours, tel le Saint Graal de mon été 2022, j'ai mis la main sur une identité.
Non.
Claire Portelance.
C'est ça.
C'est ça?
Il va pleurer!
C'est ça?
C'est ça.
Claire Portelance. Ben, ça pourrait être ça, parce qu'une identité, tu sais, c'est... Ah, mon Dieu, t'es sous le choc. Ça va? Tombe pas. Claire Portelance, mais ça te dit quelque chose. Ben donc, OK.
OK, on va prendre une respiration.
On l'a trouvé aller... ou pas, on va le savoir après.
Exactement, on va aller écouter l'ISO. About damn time. Puis là, toi, là, respire, parce que je t'inquiète, là.
Je l'ai jamais vu de
mon
même.
Mon copilote n'est plus là.
Je l'ai jamais vu de même.
Vous écoutez Copilote pour l'été, version deuxième chance. On est avec Monique Néron, qui a fait des grandes recherches pour retrouver la prof qui a fait que Michel Charest a pu aller
à mon stage du conservatoire.
Exactement.
Ça a coulé mes cours pour avoir mon diplôme.
Mais donc, tu as fait des recherches, toi aussi, de ton comté.
Après qu'on ait parlé avec Monique qui était là, j'ai appelé au cégep, j'ai communiqué avec le cégep pour faire venir mes bulletins à l'école pour essayer de trouver le
son nom.
Puis là, le cégep disait, oui, mais on part en vacances, on recommence. On est ouvert au début août. Je dis, OK, je vais aller chercher mes bulletins.
Fait que tu avais vraiment une fixation de ton côté.
Toute cette histoire-là m'est remontée. Puis j'ai fait, faut que j'y dise merci à ce fille-là à un moment donné.
Incroyable. Alors, Monique,
alors, mes recherches m'ont permis, à partir du moment où on met le nom sur une identité, là, ça peut débouler, de découvrir que Claire Portelance a enseigné la politique dans une dizaine de cégeps. En 1987, elle était en début de carrière, donc de passage à Maisonneuve, parce que c'est bel et bien à Lionel Groulx qu'elle a enseigné pendant 27 ans, avant de prendre sa retraite et de s'établir en Estrie. Et c'est là que je l'ai trouvée, Michel, à Sherbrooke. Plus précisément, et je lui ai parlé parce qu'il fallait quand même valider.
Ben oui.
C'était-tu la bonne Claire Portelance? Est-ce que c'est ta Claire Portelance? ta prof.
Avez-vous travaillé au département de sciences politiques du Cégep Maisonneuve dans votre carrière?
Oui, ça fait des années, par exemple. Fin des années 80, probablement.
À la fin des années 80, effectivement. J'avais enseigné à un jeune homme. Vous lui avez octroyé une note de passage pour qu'il puisse obtenir son diplôme d'études collégiales et pouvoir vivre son rêve d'aller étudier en théâtre.
Oui, ça me semble, oui, absolument, oui.
Plus encore, que vous-même, dans une autre vie, vous auriez aimé peut-être devenir comédienne. Alors, vous vouliez lui permettre de pouvoir vivre son rêve. Est-ce que ça...
C'est bien moi, c'est bien moi.
C'est bien moi.
Moi, oui, j'ai fait du théâtre, effectivement. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Mais c'était pas ma place, finalement.
Le comédien dont je parle, si vous ne changez pas sa note, il ne peut pas entrer à l'école à ce moment-là. Puis, il n'est pas aujourd'hui celui qu'il est devenu. C'est-à-dire, nul autre que Michel Charette.
Aïe, aïe. Je suis vraiment émue, en fait, de ce témoignage-là. On se rend pas compte de ce qu'on fait aux étudiants tout le temps. Hein.
C'est elle. Je te confirme que c'était ta Claire Portelance, celle dont tu as fait l'éloge en début d'été et qui, justement, semblait t'émouvoir beaucoup. On le voit encore aujourd'hui, que c'est important pour toi de pouvoir lui dire merci, une femme fort sympathique, qui elle aussi avait de la misère avec les noms, mais quand elle a revu ton visage, évidemment, elle s'est dit « ben oui, absolument, c'est moi, c'est bien moi que vous cherchez ». Elle est retraitée, en voyage au Nouveau-Brunswick, mais elle est aussi au bout du fil.
Non!
Oui. Tu peux lui parler, Michel.
Dis allô!
Ben bonjour!
Ben bonjour!
Ça va bien?
Ça va bien, je suis sous la pluie au Nouveau-Brunswick.
Ben moi aussi, je suis un peu sous la pluie parce que je pleure en ce moment.
Oui.
Écoute, je me suis toujours souvenu de ça. Je me rappelle très bien d'avoir été dans votre bureau pour refaire mon examen parce que si j'allais à l'examen, je pouvais pas faire mon stage au conservatoire. Puis j'avais aucune chance de rentrer à l'école, puis c'était ça mon rêve ultime. Puis là, j'ai fait mon examen dans votre local, puis vous m'avez dit, écoute, tu peux garder tes notes, tout ça. Puis au bout de 10 minutes, j'ai fait, écoute, ça se pourra pas parce que j'ai pas étudié, c'est pas ça que je veux. Puis tu me dis, c'est correct, gars, on va s'organiser, tu viendras demain, ta note va être affichée sur ma porte. Et le lendemain, je suis arrivé, puis ma note est affichée, puis j'avais 60 à côté de mon nom, mais c'était impossible, ça se pouvait pas. Puis j'ai cogné, j'ai pris une chance, puis vous étiez dans votre bureau, puis vous avez ouvert la porte, puis j'ai compté, puis je me souviens les mots que vous m'avez dit, écoute, je sais, tu veux vivre ça, je veux pas être la personne qui va t'empêcher de vivre ton rêve. J'ai moi-même aimé ça, faire ça dans la vie, mais j'ai pas eu le guts ou le courage ou peu importe. Alors, ben, je t'ai fait passer parce que je veux que tu vives ton rêve puis que tu ailles au bout de ce que tu aimes dans la vie. T'sais. Puis, ça m'a toujours suivi, cette histoire-là, mais aïe, aïe, c'est fou. Là. Merci infiniment de ce moment-là précieux dans ma vie. Puis aujourd'hui, ben, je suis millionnaire.
C'est pas vrai,
c'est une blague. Mais écoute, je suis extrêmement ému. Je travaille fort en ce moment pour continuer à faire la radio sans m'écrouler, mais je sais pas quoi faire pour vous remercier, pour vous dire merci.
Il n'y a rien à faire, t'as fait ce qu'il y avait à faire. T'es devenu un comédien célèbre. C'est extraordinaire. Moi, je pense que j'ai pris la mauvaise de bonne décision.
Ben,
très fière.
Merci infiniment. Puis, je suis vraiment content de vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas, 35 ans plus tard, je ne sais pas quoi, mais c'est fascinant le chemin qu'on a pris. Puis, tout ça là, grâce à vous. Vous êtes une partie de ce succès-là, mais de ce parcours-là. Oui.
De ton histoire.
Si vous n'avez pas cette ouverture d'esprit-là, je passe pas, je rentre pas au conservatoire, puis qui dit que l'année d'après, j'aurais fait mes auditions puis que j'aurais été accepté? Le cours de l'histoire, on ne le saura jamais, mais le timing était extraordinaire, puis je vous en serai éternellement reconnaissant.
Le timing est extraordinaire parce que je l'ai dit dans un enregistrement que j'ai envoyé à la recherchiste, mais si ça avait été des étudiants comme dans l'émission du bonheur, je suis pas sûre que ça aurait donné une
Non, je pense que j'étais un bon étudiant, mais j'avais un rêve dans la vie, c'était de devenir un acteur, puis je faisais mon cégep juste pour avoir mon diplôme, puis vous avez été la bonne personne au bon moment. C'était le seul cours qui me manquait, sinon il aurait fallu que j'attende une autre année. Puis on ne sait pas si les as se seront alignés pour que je puisse rentrer à l'école, tu sais.
J'ai quand même une question, je peux la poser?
Ben oui, absolument, on vous écoute.
Comment ça se fait que c'est juste le cours de sciences politiques qui ne fonctionnait pas?
Ouais. Non, je vous confirme que tous les autres cours non plus fonctionnaient pas tant que ça. J'ai passé ça à fesse, mon cégep, mais c'était mon dernier cours. Sinon, ça passait pas. C'était ça, c'était écrit dans le ciel. Écoute, merci infiniment, je l'apprécie vraiment beaucoup. Monique, je sais pas quoi te dire, je sais pas comment je vais te remercier, je sais pas que je vais faire.
Je... Ben moi, je peux dire en tout cas que quand Monique Néron tient une promesse,
écoute,
elle m'a dit ça en studio, elle m'a dit je vais retrouver la prof et je vais revenir en studio avant la fin de la saison et ce moment-là va arriver. Là, j'avais des frissons, là, on se textait. Écoute, ça a été une épopée, ça fait un mois qu'on s'écrit. Monique, merci pour ton travail.
Du cœur, parce que c'est ça, ça venait du cœur, tout simplement. Merci à Mme Portelance.
Merci, oui, Mme Portelance.
Des bonnes vacances.
Merci.
Merci à vous aussi. Merci.
Là, je sais pas où on s'en va. Dites-moi quoi dire. On s'en va quelque part. Alors, Michel est en train de nous lire le courriel qu'il a écrit au cégep parce qu'il cherchait sa prof le lendemain qu'il en a parlé à la radio.
Le lendemain que Monique est venue.
Le 7 juillet.
Le 7 juillet. Puis là, j'ai vraiment écrit au cégep Maisonneuve parce que Monique, elle m'a comme reparti puis elle m'a fait remonter des affaires en parlant de ça. J'ai fait, ben je veux la retrouver, cette madame-là.
Puis là, c'est fait.
Ça, c'est fait.
C'était-tu ton meilleur maman de l'émission?
Honnêtement, là, je veux pas être plate, mais c'est probablement le meilleur moment de l'été pour moi.
Mais c'est sûr!
Sincèrement, j'écoute, je suis pas capable de revenir. Je suis comme pas là.
Ben non, c'est correct.
Marc-Antoine parlait, j'ai rien compris de ce qu'il a dit. Je sais même pas de quoi il va parler tantôt. Je suis
Lady Gaga.
Complètement flabbergasté. C'est hallucinant. Je souhaite que tout le monde puisse vivre ça un jour, cette espèce d'affaire-là de deuxième chance. Puis...
C'était tellement merveilleux comme maman. Merci encore, Monique Néron, pour ta grande générosité et femme de parole que tu es. J'adore tout ce processus qui fut une belle aventure. Merci, François Chénier. J'aimerais savoir, toi, est-ce que tu as un autre... Non, ton meilleur moment, c'est le quiz des chats?
Ben, c'est le quiz des chats, okay, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et la réaction de Michel à la chronique.
C'est le quiz des chats.
Oui.
Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est apprendre plein de choses sur toi. Alors que tu n'es pas thanatologue, que ta blonde capotait sur toi au théâtre, que tu n'as jamais admiré l'intelligence de Michel. À la radio, tes enfants sont corrects, mais chez vous, ils sont caves. Et que ce que tu aimes des chèvres, c'est l'épi. C'est mon élément surprenant.
Mais c'est pas vrai, c'est surtout qu'elle saute bien.
Ah, d'accord. Et ton truc de couple, là, pour que ça marche, c'est de pas se voir. Fait que ça, en deux heures, toutes ces informations...
Faut s'ennuyer un peu.
François Chénier, sois là demain. François, tu vas être encore avec nous autres. Notre collaboratrice, Claudine Prévost, va venir nous raconter l'histoire d'une chanson. Je vais continuer.
Marc-Antoine...
Alors, Marc-Antoine s'en vient avec les plus gros hits. Merci d'avoir été là. On reprend ça. Merci à notre producteur au contenu, Jonathan Simon, nos scripteurs, Félix Turcotte et Jean-François Hébert, et Marc-Antoine Berthiaume à la mise en onde. C'était un copilote magique.
C'était extraordinaire. Wow. Merci tout le monde, sincèrement.
On fait ça demain.
Bye!
Bye!